Europe Matin Weekend, Pierre de Villeneuve.
Bonjour Lénaïque Meunier.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Il est 6h sur Europe 1, un premier journal.
On a entendu les cris d'une jeune femme, elle était grièvement blessée. C'est un lieu tellement emblématique, je pense qu'il n'a pas été choisi par hasard.
La peur de nouveau hier dans le 11e arrondissement de Paris. Une attaque à l'arme blanche devant les anciens bureaux de Charlie Hebdo a fait deux blessés graves.
Un suspect qui a avoué, 6 autres en garde à vue, du terrorisme islamiste. C'est ce que dit le ministre de l'Intérieur. On fait le point.
24 heures de plus pour s'organiser à Marseille, bars et restaurants fermeront finalement dimanche soir.
Et puis après le chardonnay, place au charbonnet, un vin qui nous vient des terrils du Pas-de-Calais.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Cette personne donc gardée à vue après l'attaque à l'arme blanche hier devant les anciens locaux de Charlie Hebdo.
Des proches des suspects pour déterminer leur lien avec l'auteur présumé de cette attaque qui a donc blessé deux personnes hier. Plusieurs perquisitions ont eu lieu hier soir à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Le parquet national antiterroriste a été saisi et Gérald Darmanin évoque hier soir un acte de terrorisme islamiste. Guillaume Bier, dans cette rue du 11e qui a déjà connu l'enfer, tout est allé très vite hier.
Les victimes profitaient d'une pause cigarette entre deux averses, juste à côté d'une plaque commémorative de l'attentat de Charlie Hebdo. C'est là qu'un homme seul les a attaqués à l'arme blanche, avec une feuille de boucher. Une attaque rapide, soudaine et sanglante. Au pied de l'immeuble, les deux salariés de la société de production Première Ligne, un homme et une femme, sont sérieusement blessés. En prenant la fuite, l'assaillant abandonne son arme dans la rue. Son signalement est aussitôt transmis à tous les services de police qui ne tardent pas à le retrouver, à 900 mètres de là, devant l'Opéra, place de la Bastille. Le principal suspect est arrêté, il porte des traces de sang et il reconnaît dès son interpellation qu'il est bien l'auteur de l'attaque. Grâce aux images de caméras de surveillance du métro, les policiers découvrent que cet homme de 18 ans, né au Pakistan, est arrivé accompagné d'un autre homme qui n'a pas participé à l'agression. Pour éclaircir les éventuels liens entre eux, les enquêteurs ont tout de même arrêté ce deuxième suspect, âgé de 23 ans et né en Algérie. Ni l'un ni l'autre ne sont connus des services de renseignement.
Et Gérald Darmanin, qui a reconnu que ses services avaient sous-évalué la menace dans la rue où a eu lieu l'attaque, aucune surveillance particulière n'était en place, malgré l'ouverture il y a 3 semaines du procès des attentats de janvier 2015.
Et on essaye d'en savoir plus tout à l'heure à 7h40 avec le spécialiste Wassim Nasr. Pour les habitants du quartier, en tout cas, c'est une plongée en arrière de 5 ans.
Et le traumatisme est toujours vivace pour les commerçants, pour les familles, pour les écoliers également. Hier, ils ont été confinés dans leur classe, des enfants qui, depuis 5 ans, ont appris à vivre avec la menace terroriste. À l'école, en tout cas, on les prépare régulièrement. Reportage d'Élise Dangean dans le 11e à Paris.
Se cacher sous les tables, fermer les portes à clé, bloquer les portes avec des tables et fermer les rideaux.
À seulement 12 ans, Lucie connaît le protocole par cœur en cas d'intrusion dans son établissement. Et pour cause, depuis la primaire, dit-elle, elle a fait de nombreux exercices de simulation. Et c'est très rassurant pour Didier, son papa.
Ils connaissent toutes les techniques maintenant depuis l'école, c'est ancré pour se cacher dans l'école, sous les chaises. Ils ont répété tout ça. Donc c'est vrai que c'est leur génération, malheureusement, a plus appris que nous à vivre avec ça.
Et selon Amélie, étudiante dans un lycée du 11e arrondissement, il y a depuis quelques années une vraie prise de conscience.
Je crois qu'en tout, on en fait à chaque fois deux exercices par an. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus important et que les gens le prennent beaucoup plus au sérieux.
Alors hier, le protocole appliqué était restreint. Il consistait principalement à confiner les élèves au sein de l'établissement. Mais certaines écoles primaires ont tout de même tenu à les réunir dans une seule et même pièce avant de les laisser sortir au compte-gouttes, classe par classe.
Il est 6h04, un laps de temps supplémentaire à Marseille pour la fermeture des bars et des restaurants.
24 heures de plus, histoire d'écouler les stocks, ce qui signifie que les établissements ferment demain, dimanche et non pas ce soir. Un week-end, c'est toujours ça de gagner pour les Marseillais, nombreux en terrasse hier soir. Mais les commerçants, eux, n'en voient pas le bout. Mathieu Bock est à Marseille pour Europe 1.
Malgré le mistral qui souffle fort, les terrasses sont pleines. Beaucoup de jeunes pensaient que ce serait le dernier verre avant longtemps, alors ces 2 jours supplémentaires sont une bonne nouvelle.
Je m'étais dit c'est la dernière, donc peut-être que ce sera la dernière quand même ce soir. Voilà.
On s'est forcé à sortir justement pour profiter une dernière fois, mais tant mieux si on a tout le week-end en plus, mais ça aurait été encore mieux que ça ne ferme pas du tout. Quoi.
Bon, les gens vont rester, enfin ça va rester ouvert quoi, c'est comme à Marseille quoi, tranquille. Oui, ça va rester ouvert, il n'y a pas de soucis. Moi je me fais pas de soucis. Ouais. On continuera à sortir de toute façon. Hein.
Le patron du bar, Alexandre, est content de travailler ce soir. soir-là, mais lui voit plus loin, il devra fermer de toute façon, même après ces deux jours de bonus.
Ah non, c'est pas une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle, ça nous permet de gérer un peu mieux nos stocks, mais à part ça, une bonne nouvelle, on peut pas dire que c'est une bonne nouvelle. On est pénalisé par rapport au reste de la France et non, c'est pas une bonne nouvelle.
Il y a du monde, il y a l'ambiance, il y a une bonne ambiance.
Oui, il y a une bonne ambiance, mais ça sent les derniers instants.
Mais Alexandre essaye de positiver puisque cette fois-ci, il pourra écouler son stock. Lors du confinement, au mois de mars, il avait été prévenu à la dernière minute et avait dû tout jeter à la poubelle. Marseille, Mathieu Bock, Europe 1.
Et la mairie de Paris, de son côté, a donné quelques indications supplémentaires. Confirmation que les bars seront fermés à partir de 22h lundi. La vente à emporter et la consommation d'alcool sur la voie publique est également interdite à partir de 22h. Fermeture des salles de sport et des gymnases, sauf pour ce qui concerne les activités scolaires et périscolaires.
La France qui a enregistré 15 797 nouveaux cas en 24 heures et 56 décès.
Et l'OMS prévient que la pandémie pourrait tuer 2 millions de personnes si tout n'est pas fait pour la combattre.
C'est aujourd'hui la journée mondiale de la contraception et des femmes vont se rassembler cet après-midi à Paris.
Pour évoquer notamment la prévention et le manque d'informations, car cette année, le nombre d'avortements a atteint un niveau record en 30 ans. Les explications d'Ève Roger.
Pour certains, ce record est une bonne nouvelle. S'il y a beaucoup d'IVG en France et qu'on peut y avorter sans trop de difficultés, même si c'est plus ou moins facile en fonction des régions. Mais d'autres voient l'autre face de la médaille. Si la courbe est à la hausse, c'est que le recours à la contraception se dégrade. En particulier chez les femmes les plus précaires, les chiffres l'attestent. Et puis, il y a aussi une tendance marquée chez les jeunes femmes d'aujourd'hui. La défiance vis-à-vis de la contraception hormonale, pilule ou stérilée, explique Philippe Deruel, secrétaire général du Collège national des gynécologues et obstétriciens.
Tous les jours, il y a une vraie défiance vis-à-vis de l'idée d'avoir un corps étranger dans son utérus, de l'idée de prendre des hormones, ces moyens de contraception. C'est vrai, ne sont pas parfaits. C'est vrai, peuvent avoir des effets secondaires, mais évitent d'avoir des bébés qui ne sont pas désirés et évitent des interruptions volontaires de grossesse.
Résultat, ces jeunes femmes privilégient le préservatif ou les méthodes naturelles, beaucoup moins efficaces en termes de contraception.
Et Anne Le Gall y revient juste après ce journal dans la chronique santé. 6h07, restez avec nous dans un instant. Jacques Chirac, il disparaissait il y a un an jour pour jour. Hommage hier au cimetière du Montparnasse à Paris.
Europe 1, votre matinale info. Pierre de Villeneuve.
Et la suite du journal avec Lénaïque Meunier. Il y a un an, le 26 septembre 2019, disparaissait Jacques Chirac.
Et dès hier, des hommages lui ont été rendus au cimetière du Montparnasse où il repose. Des politiques, des anonymes rencontrés par Caroline Baudry.
On a eu le bonheur à votre âge d'avoir cette rencontre avec un homme d'exception.
L'émotion de Christian Jacob, président des Républicains, près de la tombe de son ami et mentor. Il s'adresse à des jeunes du parti conviés à cet hommage à la transmission politique.
Jacques Chirac avait cette capacité à rassembler. On l'a tous vu passer un coup de fil avec Bush pour parler ensuite à un paysan de Corrèze. Et tout ça, c'est Chirac.
Avec d'autres fidèles chiraciens comme François Baroin, il a déposé sur la tombe une gerbe de fleurs au milieu des ornements déjà installés. Le temps passe, ton souvenir reste, peut-on lire sur un cœur sculpté, des objets en forme de pomme, symbole de sa campagne en 1995. Debout, silencieux, Jérôme, un breton de passage à Paris, tenait à se recueillir ici.
C'est un peu émouvant et je trouve que c'est à l'image de son personnage. Je pense que M. Chirac, c'était une personnalité très forte. Surtout, je pense que c'est le dernier président qui a été réellement aimé par son peuple.
Malgré la pluie, des passants prennent la tombe en photo, les livreurs y déposent des bouquets. C'est la première fois qu'elle est aussi fleurie, confie un employé du cimetière venu sur sa pause observer la tombe de Jacques Chirac.
Et un fidèle parmi les fidèles sera à vos côtés, Pierre, tout à l'heure à 8h15. C'est Alain Juppé qui sera votre invité. Donald Trump lui a choisi la juge conservatrice Amy Coney Barrett pour remplacer la doyenne de la Cour suprême des États-Unis décédée il y a une semaine. On attend désormais la confirmation du président américain.
L'arrivée d'Amazon divise dans le Finistère. Les élus sont pour, mais les petits commerçants s'inquiètent.
Le géant américain est-il une menace pour le commerce de proximité? C'est la crainte principale des opposants qui manifestent à Briec, près de Quimper, cet après-midi. Reportage de Charles Guyard.
J'ai hérité de quelque chose qu'on pourrait appeler un cadeau empoisonné.
Ce cadeau empoisonné pour Isabelle Assy mesure près de 10 000 mètres carrés et porte un nom, c'est Amazon, qui a choisi la communauté de communes de Quimper pour y établir l'un de ses entrepôts. Une situation que la nouvelle maire a donc découvert au printemps à sa prise de fonction et l'élu s'est retrouvé comme dans un dilemme.
Si j'avais été en situation vraiment de décider, j'aurais préféré un autre projet pour ce terrain-là, en accord avec les valeurs que j'ai défendues pendant la campagne électorale.
Seulement voilà, sa campagne, Isabelle Assy l'a aussi axée sur la démocratie. démocratie participative. Du coup, lorsqu'elle a soumis ce projet à un nouveau vote jeudi, une courte majorité l'a validé. Il faut dire que la plateforme assurera plus de 500 000 euros de rentrée fiscale par an et emploiera 80 personnes en CDI à temps plein. Des arguments qui ne font pas le poids face au risque de voir s'éteindre le commerce de proximité. C'est la crainte du collectif Stop Amazon, Pierre Crampon.
Elle a beaucoup moins de frais que le commerce local et à ce titre, la concurrence est déloyale. Pour l'instant, le boulanger de Quimper n'est pas en concurrence, mais il faut savoir que Amazon est une entreprise monopolistique qui, petit à petit, va s'étendre sur tous les secteurs d'activité, y compris l'alimentaire.
Et le collectif appelle à manifester ce samedi après-midi à Briec, la commune dans laquelle doit être construit à partir de 2021 l'entrepôt Amazon. Quimper, Charles Guyard, Europe 1.
Allez, on change de direction et on part dans le Pas-de-Calais puisqu'on vendange aujourd'hui au pied des terrils.
Oui, ce n'est pas banal, mais le sol de ces collines de résidus miniers est fertile. Alors après le chardonnay, voici la récolte du charbonnet et le reportage de Maximilien Carlier.
Pour accéder aux vignes, il faut emprunter un petit sentier et zigzaguer sur le flanc du terril. 80% dénivelé, une pente très raide. Lauriane, chaussures de randonnée, sécateur dans la main, première vendange.
Ça se mérite d'aller sur les vignes du terril d'Aïcourt. C'est pas simple de monter. Un peu essoufflé. Alors avec le masque, ça va peut-être être un petit peu la contrainte, mais bon. On a le droit de respirer.
Respirer à 100 mètres de haut et vendanger, c'est la 8e récolte cette année, un peu réduite à cause du confinement. Olivier Pussec, vigneron.
On ne progresse pas parce qu'il y a eu pendant 2 mois, en tout cas au moins, une absence totale de passage dans la vigne. Et la vigne, comme toutes les plantes, elle demande à être soignée, entretenue toutes les semaines.
Seul point positif pour Henri Jamais, autre vigneron, c'est l'ensoleillement exceptionnel dans le Pas-de-Calais, plus une année assez sèche. Résultat,
c'est joli, c'est doré. Alors là, je crois que les pépins, parce que ça me permet de savoir s'ils sont bien mûrs. Le jus est sucré, donc ça nous permettra certainement d'avoir un vin autour de 12 degrés, mais pas 14, et c'est bien. C'est à faire rêver des viticulteurs du Bordelais ou du Midi.
Le Charbonnet cuvée 2020 à déguster l'année prochaine, prix de la bouteille de ce vin ch'ti autour de 50 euros. Aïcourt, Maximilien Carlier, Europe 1.
Et pas très loin, mais dans le Nord, cette fois-ci, Lille a pris la tête du championnat de Ligue 1 après une victoire 2-0 face à Nantes. Aujourd'hui, c'est Saint-Etienne, deuxième contre Rennes, le troisième, et Marseille face à Metz. Et puis un retour gagnant, signé Tony Yoka après un an d'absence sur les rings. Le boxeur a battu Johan Duopa dès le premier round. Ça a été expéditif.
Merci Lénaïque Meunier et Valérie Darmon. Nous signalent qu'il n'y a plus que 2 départements en vigilance orange. Donc ça se calme du côté du ciel. Merci Lénaïque, à tout à l'heure pour le journal de 7h.